Ouais, voilà, comme AFECAP, tu vois, les gens mettront souvent des questions comme ça, par exemple. C'est plus facile pour les repérer.
Ok, alors moi ce que j'ai proposé de faire, c'est de dérouler une présentation que je fais régulièrement, enfin qui est régulièrement updatée dans des boîtes essentiellement, où j'interviens en mode conférence pour parler de ce que je. Enfin, ça s'appelle Où va le monde en général, donc j'essaie de résumer un petit peu quelle est ma vision des choses après 4 ans d'enquête. Voilà, donc je proposais de la faire ici. Donc ça prend, selon qu'on s'interrompt ou pas, selon que je déroule, ça prend 3 quarts d'heure, 1 heure, les questions à la fin, pendant. Et puis je peux passer vite sur certaines parties, si ça fait trop long. Voilà, mais l'idée c'est de donner un panorama sur pas mal de sujets. Donc voilà.
Eh ben excellent, on va faire comme ça.
Ok, on y va ou comment?
Ouais, j'allais faire un petit
Ou
speech
du
pour
premier monde?
expliquer le déroulé
Vas-y, vas-y,
aux
vas-y, très bien,
auditeurs,
très bien.
mais en fait, il n'y a que des habitués, donc je vais pas réexpliquer comment utiliser les icônes. Les bots, ils sont bons, toi, t'es là, le Twitch, il est lancé. Bon, on est tout bon, c'est quand tu veux, Julien. Et merci d'être venu avec nous
Ok.
ce soir.
Ah bah écoute, merci pour l'invitation. Alors, comment je fais pour partager mon écran? Keynote, voilà. Je vais partager ça. Juste. Ok. Alors, il faut que je redémarre Firefox pour pouvoir repartager l'écran.
Ah, ok.
Donc, à tout de suite.
Ça marche.
Voilà, on est toujours bon.
Ouais, on t'entend.
Ok. Est-ce que vous voyez un truc, des vagues là, un truc comme ça?
Oui, là on voit même où va le monde.
Ok, bon voilà. Bon, ok. Donc ce que je propose de faire, c'est d'essayer de voir ensemble où va le monde. Donc, et de commencer par poser la question de savoir à quoi ça sert en fait de se poser cette question, puisque c'est finalement si les gens qui sont là, je pense, se la posent pas mal quand on commence à regarder un peu quels sont les essayer de décortiquer ce qui se passe et qu'on se pose cette question-là. Et moi, la manière dont je définis ce que ça veut dire, c'est être en mesure à quoi ça sert. Ça sert à être en mesure demain de répondre à nos besoins de demain. Donc, d'une part, imaginer quels seront nos besoins de demain, ce qu'on fait souvent, on fait très mal, puisque trop souvent en fait on imagine que ces besoins seront les mêmes qu'aujourd'hui. Et imaginer comment on pourra y répondre dans un contexte qui aura forcément évolué. Donc, et qu'on le fasse consciemment ou non, on fait toujours en fait des paris sur l'avenir. Quand on investit, quand on développe une compétence, quand on choisit une formation, quand on éduque nos enfants. Donc je pars du principe que quand on s'intéresse, voilà, à cette actualité, à l'économie, aux choses du monde en général, c'est qu'on essaie d'acquérir des connaissances qui pourraient potentiellement nous permettre de mieux vivre demain. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de partager un peu ma propre méthode pour me projeter, pour quel est mon cadre d'analyse et certains des insights donc, que j'ai réussi à avoir en faisant donc ce petit podcast qui s'appelle Sismic, que je décris comme une enquête. Ça fait 4 ans que Sismic existe et ça fait 6-7 ans maintenant vraiment que j'enquête de manière un peu méthodique sur le fonctionnement de notre monde et ses enjeux. Et donc, 4 ans que j'interviewe des personnes, j'ai trouvé que c'était un très bon moyen de gagner du temps. Donc, ça fait 84 personnes que j'ai diffusées, en tout cas que j'ai interviewées, donc que je diffuse tous les 15 jours, qui travaillent sur des enjeux techno, environnementaux, énergétiques, politiques, géopolitiques, sociaux, etc. Je commence à pouvoir faire une petite synthèse de ces différentes visions du monde. Je vous partage déjà quelques convictions que j'ai après ces années d'enquête. Donc, d'une part, notre monde est en train de changer profondément et rapidement. D'autre part, on sous-estime ces changements et on ne se prépare pas. Et enfin, anticiper ces changements et anticiper l'incertitude des changements peut faire une différence pour qui veut justement un peu se préparer, quoi. Ça représente une autre de mes convictions, en fait, qui est que le monde, notre monde est bien trop complexe pour qu'on puisse le décrire correctement. Ça, c'est une peinture, hein, mais ça représente pour moi ce qu'est le monde, fait de lignes, de points, de trucs qu'on ne voit pas, planqués, que tout est entremêlé, etc. Et donc ça, je pars aussi du principe que dans tout ce que je vais vous dire, il manque plein de choses, il manque évidemment plein d'angles de vue, et c'est juste à prendre comme une source d'inspiration supplémentaire parmi toutes celles que vous avez déjà. Et ça veut dire aussi quelque chose sur ma démarche, qui est que je mets le doute et l'écoute au centre de mon enquête, puisque j'essaie pas en fait de trouver une vérité absolue, et c'est ce qui, enfin, en tout cas, c'est une des lignes de conduite qui différencie de certains autres médias, c'est que je suis pas activiste pour quoi que ce soit, donc j'essaie surtout de comprendre et de regarder, de parler à tout le monde, enfin un peu comme Facing Curio d'abord, en essayant d'être le plus neutre
Bah,
possible et le
essayer
plus
surtout
ouvert
de.
pour comprendre quel est le système de pensée de l'autre, quoi. Et ça reste de plus en plus d'ailleurs, c'est une espèce de d'ode à la complexité que j'essaie de mettre en place, qu'on se rencontre, on se rend compte un peu plus en fait que. Qu'on ne sait pas grand-chose. Autre chose qui est mon point de départ aussi, c'est un peu cette équation. Je pars du principe que pour bien pouvoir mener ma barque et nos barques, même collectivement, on a besoin de comprendre comment fonctionnent les choses à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, quel est le contexte extérieur? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde? Comment ça marche? Et aussi de comprendre quel est le contexte intérieur, notre contexte intérieur, c'est-à-dire enfin nous-mêmes comment on fonctionne et puis comment les humains fonctionnent pour acquérir de la connaissance, des savoirs et en faire quelque chose. Et si on n'a pas compris en fait ces deux éléments et qu'on ne regarde pas ces deux éléments, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Et alors, je commence par parler un peu de ce contexte intérieur, puisque partir de l'idée qu'en fait qu'on a, par rapport à cette complexité là, cette espèce de gribouillis, naturellement ce qu'on essaie de faire, c'est de simplifier les choses. On simplifie le réel pour essayer d'en faire quelque chose, en fait, pour essayer d'en faire sens. Donc, on a besoin en permanence de faire des raccourcis. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Donc, on voit pas les choses telles qu'elles sont. On a que des interprétations du réel, des interprétations du monde, et on utilise tout un tas de méthodes pour faire ça. Et donc, ça fait que enfin, bon, c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc, la première chose dont il faut se méfier, c'est nos propres opinions. Nos certitudes, parce qu'en fait, ce n'est pas le réel, parce que les choses sont généralement beaucoup plus compliquées. Et je commence par lister quelques proxys en fait qu'on utilise de manière commune. J'aime bien les cartes, donc les cartes, par exemple, ça, c'est quelque chose qui nous parle. La carte n'est pas le territoire, donc c'est juste une représentation des territoires, une représentation du monde. Et on voit, là, je me suis amusé sur Instagram, si vous me suivez, à mettre quelques cartes qui montrent à quel point nos cartes sont tordues. Elles ne représentent pas les bonnes distances, par exemple. Enfin, il y a plein de. Donc, ça fait partie des choses qui viennent tordre notre perception du réel. Donc, par exemple, je regardais l'autre jour, je m'étais rendu compte que bah, la République démocratique du Congo était aussi grande que la moitié de l'Europe. Ce qu'on voit pas du tout sur cette carte. Et puis on a inventé tout un tas de choses. On a inventé des chiffres, on a inventé des lettres, on a inventé les maths, on a inventé ce qui nous permet en fait de modéliser le monde et de faire de la science, qui est le meilleur proxy qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et puis on a tout un tas d'histoires qu'on se raconte pour nous permettre de faire sens du monde, de simplifier le monde, qui nous permettent d'expliquer les choses donc simplement et de donner un sens à cette espèce de pelote incompréhensible et donc qui sont très très importantes pour certaines personnes puisque ça permet donc de simplifier voilà. L'exemple que j'aime bien donner c'est ce qu'on nous apprend à l'école hein, c'est cette idée que l'histoire est linéaire, qu'elle va de gauche à droite, que il y a des grands événements qui font l'histoire, des grands hommes et des femmes qui font l'histoire. Souvent c'est des guerres, souvent c'est des événements absolument remarquables, et puis on passe à côté de tout ce qui se passe entre ces moments-là, ou de l'explication même de ces moments-là. Donc on marque quelques événements, et ça définit en fait notre lecture du monde, et ça nous permet de simplifier, mais en fait c'est pareil, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en général. Voilà. Et puis il y a tout un tas d'autres choses, tout ça c'est des sujets que j'étudie hein, dans le podcast, il y a aussi les biais cognitifs qui commencent à être un peu connus. Qui nous montre que notre cerveau fonctionne de manière totalement imparfaite, que par ailleurs, enfin, qu'on fait des raccourcis sur tout, donc on a, je crois, près de 300 biais cognitifs. Enfin là, il y en a 188 sur ce schéma, mais et qui montre qu'en fait, on fait des catégories, on fait des cases. Enfin, c'est passionnant de regarder justement à quel point on se trompe sur tout un tas de choses en pensant être rationnel, et du coup à quel point aussi on est manipulable. Ce qui m'amène à une citation qui est comment il se fait que nous ayons autant d'informations et que nous sachions si peu de choses de Noam Chomsky que vous devez connaître. Normalement, je devrais recevoir dans 1 mois et demi, 2 mois dans le podcast si tout se passe bien. Et pourtant, on croit savoir énormément de choses. Ça, c'est aussi quelque chose dont je me suis aperçu même moi-même. C'est ce principe qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger qui est terrible parce que la majorité des gens en fait s'arrêtent à ce je sais tout. Donc on voit une courbe qui monte à partir du moment où on commence à peine à connaître, à gratter la surface d'un sujet, on se dit, ah ça y est, vraiment, j'ai compris, et du coup on se permet d'en parler, de tweeter, de se construire des opinions extrêmement solides sur quelque chose qu'on a à peine commencé à découvrir. Et puis quand on commence à aller un peu plus loin dans la connaissance du domaine, on se rend compte que finalement, c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît, et puis on arrive à ce point où on a l'impression de plus rien y comprendre, jusqu'à ce qu'on redevienne un peu plus expert, un peu plus sûr, et on se dit, OK, en fait, je vois comment ça fonctionne, et croyez-moi, c'est compliqué. Et on va voir aussi qu'on est dans une époque où beaucoup de gens s'arrêtent à ce je sais tout, et communiquent dessus. Un autre paramètre qu'il faut comprendre sur nous-mêmes, c'est le fait que, on a structurellement, en fait, notre cerveau est extrêmement fort pour inventer tout un tas d'histoires. Et pour être déconnecté du monde physique et d'un certain nombre de réalités physiques. Donc j'en ai un peu parlé en montrant les religions et toutes les histoires qu'on se raconte, mais on passe notre temps en fait à se raconter des histoires sur le monde, à imaginer des choses qui ne pourront jamais exister ou qui n'ont jamais existé, alors que parce que notre imagination est sans limite. Et plus en fait on se distancie du monde physique, comme dans notre époque où on vit dans des villes, où on vit sur des écrans, où on est déconnecté en fait de la réalité des contraintes du monde physique, où en fait on se nourrit à partir de supermarchés, etc., sans jamais savoir où ça pousse, plus en fait on est capable aussi de croire en des choses qui ne se réaliseront jamais. Et donc on va voir plus tard que ça commence à poser un certain nombre de problèmes quand on atteint les limites physiques. Mais voilà, on est extrêmement fort pour s'inventer des choses et se déconnecter du monde réel. Ce qui nous permet aussi d'avoir une capacité à vivre dans le déni, même quand les choses sont pressantes. Là, je vous montre une photo d'un golfeur face à un feu qui arrive, qui a quelques kilomètres, mais qui n'arrête pas sa partie malgré le fait que la forêt est en train de brûler à côté de lui. En général, cette photo montre qu'on est extrêmement mauvais pour anticiper les choses. Parce que, pareil, notre cerveau fonctionne sur le court terme, va favoriser le court terme plutôt que le long terme, va favoriser quelque chose qui est devant lui plutôt que quelque chose qui est loin. Et que donc, on est très, très rapidement absorbé sur une tâche et sur une urgence qui fait qu'on n'arrive pas à penser des événements qui pourtant sont extrêmement probables. Et donc à les anticiper. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui doit être questionné quand on commence à réfléchir sur le monde, parce que on doit commencer par questionner notre rapport au réel, la manière dont on consomme l'information, comment ça nous influence, etc. D'autant plus qu'on est aujourd'hui dans un contexte extérieur. Donc là on va commencer à parler du contexte extérieur qui nous rend le réel encore plus inaccessible. Pareil, c'est un gros sujet d'étude. J'en dis juste quelques mots et quelques exemples. On a une accélération du rythme de changement. On va voir qu'on est parti dans des exponentielles et que donc on a du mal à penser ces exponentielles et que donc on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle les choses sont en train de changer. Et donc on est un peu hypnotisé par rapport à ces choses-là, ou alors on sursimplifie des choses là où on ne devrait pas les simplifier. On a aussi toute une complexification du monde, et notamment la complexification des technologies qui sont omniprésentes dans nos vies et dont on ne sait pas comment elles fonctionnent. On utilise tout un tas d'outils qui sont complètement mystérieux pour nous. On utilise, voilà, on a des algorithmes dans nos vies un peu partout qui décident de tout un tas de choses, à commencer par le monde de la finance, etc., qu'on ne comprend pas, que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc ça fait qu'on n'a pas accès en fait à la manière dont le réel fonctionne, parce que c'est devenu beaucoup trop complexe. On a aussi tout ce qui est réseaux sociaux et bulles de filtre qui vient nous présenter l'information qu'on va liker, qu'on aime déjà, qui nous convient déjà, qui va jouer sur tous nos biais cognitifs en nous rendant addicts à un certain nombre d'informations, en se basant sur le. Enfin voilà, c'est le business model, c'est l'économie de l'attention, même l'économie un peu de la manipulation, comme certains vont dire, mais c'est l'économie du changement de comportement. Les annonceurs payent pour changer nos comportements. Et on a en face de nous des outils extrêmement sophistiqués qui sont en mesure d'accéder à des parties de notre inconscient, des parties de notre cerveau, qui fait qu'on va nous conditionner d'une certaine manière. Et puis on a tout ce qui est surinformation et désinformation sous stéroïdes avec le fait qu'on est connecté de manière permanente, plus les chaînes 24, etc., qui fait qu'on arrive dans un contexte dans lequel il est de plus en plus difficile pour tout individu d'y voir, d'y comprendre quelque chose, en fait. Ça demande des efforts énormes parce que le contexte extérieur fait que à la fois c'est plus compliqué et à la fois on veut nous emmener vers des choses en manipulant directement notre capacité d'attention. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre ça quand on a un rapport au monde, quand on réfléchit au monde. Et je donne juste un exemple qui est le fait que Donald Trump, durant ses 4 ans de mandat, aurait dit à peu près 30 000 mensonges ou fait déclarations fallacieuses, d'après le Washington Post, et que on le voit aujourd'hui encore très haut dans les sondages, à plus de 85% de taux d'approbation chez les républicains. Voilà. Alors, je ne vois pas le chat, j'entends des notifications, mais ça peut être un problème. Alors, je sors, je regarde juste. Dites-moi d'ailleurs si c'est un problème, s'il y a des messages importants.
Non, je voyais pas de message pour toi pourtant, pas dans le chat, livre blanc.
Alors, je repartage
Si
mon écran.
jamais il y a des messages importants, on te les partagera si tu peux pas avoir le chat.
Ok, très bien. Alors, arrêtez le partage. Comment je fais pour revenir à la fenêtre que je partage? Vous voyez toujours mon écran en fait. Il faut que je fasse gaffe. Ok, donc on est sur un espèce de contexte un peu bizarre et qui fait dire donc à Bertrand Russell, l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Ne soyez jamais absolument certains de quoi que ce soit. Je vais utiliser une espèce de métaphore maritime pour expliquer comment je vois un peu les choses et l'évolution du contexte. Le bateau, en fait, on est sur un bateau qui est sur un grand océan, voilà, qui est plutôt calme. Et le bateau, c'est nous, c'est notre organisation, notre famille, notre entreprise, quand je parle des entreprises. Et pour pouvoir naviguer, donc on a tout un tas d'instruments dont j'ai parlé, on modélise des cartes, etc. On a une boussole, on regarde et on passe notre temps en fait à être concentré sur une navigation. Et puis à côté de nous, on a tout un tas d'autres bateaux qui naviguent et avec qui parfois on fait la course, toujours pareil, hein, si on est président d'un État ou chef d'un État, ou si on est dans une entreprise, on va se comparer aux autres, ou même en tant qu'individu, hein, on va se comparer aux autres, on va regarder comment ils optimisent leur vie, comment ils optimisent leur navigation, etc. Et on passe beaucoup de temps dans notre vie à optimiser tout ça, en fait, à regarder vraiment quelles sont les règles du jeu, qu'est-ce que fait l'autre, comment je change le moteur, etc. Donc on fait un peu de la stratégie. Et on est très très mauvais pour voir ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le temps est en train vraiment de changer, et le plan d'eau qui était extrêmement stable depuis des siècles, voire des millénaires, est en train de changer. Donc autrement dit, le contexte extérieur sur lequel toute notre société fonctionne, qui est fait d'un certain nombre de paramètres qu'on va regarder, est en train de bouger et de créer des vagues de fond qui vont à coup sûr en fait venir perturber notre navigation, alors même qu'on a le nez dans le guidon et qu'on est occupé à la course. C'est une métaphore un peu que j'aime bien et qui permet de parler de pensée systémique, et d'enchaîner sur ce que je comprends de l'évolution de ce contexte extérieur qui jusqu'à présent était quand même plutôt stable. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la pensée systémique, mais je vais vous montrer comment moi je l'utilise en tout cas pour essayer de mieux faire le tri entre les différents événements que je perçois. Donc au-dessus, c'est représenté par une espèce d'iceberg avec une partie donc émergée qui est bien plus petite que ce qui est immergé. Et au-dessus, donc ce qu'on voit, ce qu'on note le plus, c'est la partie émergée, c'est les événements. Et l'événement, les questions à se poser, c'est OK, qu'est-ce que je suis en train d'observer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Déjà, il y a beaucoup de débats sur ce qu'on observe. On voit qu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur même ce qui s'est passé, quel est le réel, etc. Et qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets à interprétation souvent, selon d'où on regarde les choses. Mais quand même, on peut observer un certain nombre de choses. En dessous, il y a ce qu'on appelle des tendances émotives. Qui viennent créer donc des espèces de qui viennent créer en fait les événements qui sont là, qui sont des dynamiques, qui sont des vagues un peu souterraines qui font émerger les événements. Encore un niveau en dessous, il y a ce qu'on appelle les structures sous-jacentes qui expliquent ces tendances. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont bien en place, qu'ils sont encore plus solides? Et puis encore en dessous, on peut appeler ce qu'on appelle les croyances sous-jacentes. qui viennent conditionner ces structures et qui sont à la base de tout un tas de choses en fait sur la manière dont la société fonctionne. Quand je regarde aujourd'hui les événements, quelque chose qui me frappe, c'est qu'on est rentré dans une ère de ce qu'on appelle un peu la post-normalité, enfin ce que certains appellent la post-normalité, qui est un concept que je trouve intéressant, donc la fin de la normalité. Et de fait, en fait, on a une espèce de multiplication des événements un peu anormaux, qui peuvent être catégorisés de cette manière. J'utilise des travaux d'autres personnes pour ça, mais on connaît, je ne sais pas si vous connaissez, ce qu'on appelle l'éléphant noir. L'éléphant noir, ce sont des événements très probables, largement connus et documentés pour peu qu'on les regarde, mais que la plupart des gens ignorent. Voire, parfois, la société tout entière ignore et dont on ne tient pas compte. Ça va être la prévision sur notre bateau, la prévision météo qu'on n'écoute pas, la grosse vague qu'on voit arriver mais dont on se dit qu'elle va nous passer à côté, etc., etc. Ensuite, plus connu, il y a les signes noirs. Les signes noirs sont des événements qu'on n'imagine pas et que presque personne ne voit venir. Et puis, il y a les méduses noires. On sait qu'elles sont là, mais on n'imagine pas les conséquences qu'elles peuvent avoir. Donc, ça vient d'un. Cette image, en fait, vient du fait qu'il y a quelques années, un banc de méduses a causé l'arrêt d'une centrale nucléaire en Suède en bouchant les tuyaux d'arrivée d'eau. Donc on n'avait pas du tout prévu l'évolution, etc. Donner quelques exemples. Changement climatique, par exemple, c'est typiquement un gros éléphant noir. Donc on sait que c'est là, on sait comment ça fonctionne, on sait voilà, une grande certitude sur le fait que ça va être quelque chose de très important. Pour autant, on n'en tient pas vraiment compte et on continue de passer à côté du sujet. Le Covid, c'est un éléphant noir parce que ça fait, on l'a appelé signe noir, mais en fait c'est plutôt un éléphant noir parce qu'en fait ça fait des années qu'on sait, ça c'est Bill Gates qui en 2015 faisait une TED Talk là-dessus sur la prochaine pandémie de type coronavirus, on sait que le risque est là, c'est dans nos radars, mais on ne s'y prépare pas du tout. Et puis on a des phénomènes qui sont plus de l'ordre du signe noir, donc comme Fukushima par exemple, voilà, on se dit que c'était pas forcément évident de prévoir qu'une vague de cette taille allait arriver, etc. Et puis on a par exemple la chute de Kaboul qui va être une méduse noire, c'est-à-dire que on a été extrêmement étonné de voir qu'en un mois, en fait, tout ce que les Américains avaient mis 20 ans à construire a pu s'écrouler comme un château de cartes. Donc c'est un peu l'effet domino. C'est qu'après coup, on comprend pourquoi le premier domino est tombé, puis le deuxième, puis le troisième, mais sur le coup, on est complètement surpris par l'ampleur et la rapidité du phénomène. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à notre époque, on a une vraie accélération du rythme d'événements qu'on va appeler anormaux. Et là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est à peine. C'est hallucinant ce qu'on vit depuis même quelques semaines. C'est-à-dire qu'on s'est pris une crise financière, puis après, on s'est pris le Covid, puis après, à peine le Covid fini, on a l'Ukraine qui se fait envahir. Enfin, c'est délirant. Et c'est pareil sur les phénomènes météorologiques, et c'est pareil sur tout un tas de choses, en fait. Donc on est constamment dans l'espèce de multiplication des phénomènes normaux. Alors qu'est-ce qui crée cette espèce d'accélération du phénomène? Il faut aller regarder en dessous, sur les tendances et les motifs. Et moi, ce que je vois partout, ce sont des exponentielles. Donc, ce qui me fait dire, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais en gros, ce que je trouve que c'est ce qui caractérise le plus notre époque, c'est ce phénomène de grande accélération. Et que j'illustre là par quelques schémas que je vais vous montrer. Donc là, on montre la courbe de l'accélération de la croissance de la population. Qu'on est passé de. On était à peu près plat en fait pendant des millénaires, et puis en 1806, on a passé le premier milliard, et puis aujourd'hui, on est à 7, presque 8 milliards, je crois. Donc ça va extrêmement vite, et c'est suivi partout où on regarde, en fait, on a des exponentielles. Le PIB qui augmente en exponentielle, on a l'accélération technologique avec une puissance de calcul qui suit la loi de Moore, donc qui part en exponentielle aussi. Les transports, plus récemment les bitcoins, le bitcoin et les crypto-monnaies. Et puis on a, pareil, la production de la nourriture qui est exponentielle parce que, il faut bien nourrir toute cette population. Et ce qui est intéressant dans le schéma que je suis en train de montrer, qui montre qu'en fait on a une ère, quand on projette entre aujourd'hui et entre 2010 et on va dire à 2050, l'ère, c'est-à-dire la quantité de nourriture qu'il va falloir produire si on suit une courbe exponentielle sur 40 ans, est égale à peu près à la quantité qu'on a produit ces 500 dernières années. Donc c'est le principe des exponentielles, c'est-à-dire que quand on a un taux de croissance de 3% par an, il faut se rendre compte qu'on double tous les 25 ans. Donc, quand on se dit que l'économie va croître de 3% par an sur les 25 prochaines années, ça veut dire qu'elle sera deux fois plus grosse dans 25 ans, avec tout ce que ça implique derrière. Donc, ça permet d'imaginer un certain nombre de choses. Donc, on voit qu'on a des exponentielles absolument partout où on regarde, et on appelle ça le progrès. Donc là, parce que c'est à ça qu'on associe. Donc, sauf qu'évidemment, cette croissance, ce progrès a un certain nombre de conséquences, hein, des conséquences sur les systèmes, notamment les systèmes Terre, enfin ce qu'on appelle limite planétaire. Et donc notre système civilisationnel est devenu tellement grand, tellement puissant, tellement consommateur de ressources et producteur de déchets, que c'est tout le système Terre qui est en train de changer, lui aussi, à une vitesse exponentielle. Et on regarde un peu les entrants, ce qui rentre et ce qui sort. Donc on voit aussi que la consommation énergétique part en exponentielle, que la consommation de ressources part en exponentielle, la consommation d'eau, les émissions de CO2, ce qui va nous permettre de reboucler avec le climat après, la pollution plastique, puisqu'on vient de dépasser une limite planétaire. Et puis on a des choses qui baissent, comme le vivant qui disparaît, etc. Ça, ce sont les tendances et motifs vraiment qui caractérisent notre époque, cette espèce de grande accélération. En dessous de ça, on a des trucs. Il faut se poser la question de comment ça se fait que ça arrive. Quelles sont les structures sous-jacentes? On a tout un tas d'événements étranges, donc, qui s'expliquent par ces lacs de fond. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe en dessous. C'est là que ça devient intéressant, parce que tant qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui est à la racine de ces phénomènes, c'est très compliqué de savoir comment ces phénomènes vont continuer d'évoluer. Est-ce qu'il est possible de les faire évoluer différemment? Est-ce qu'on a encore la main, etc. Et c'est un peu moi les questions qui m'intéressent. On a notamment notre système économique qui est, pour faire court en fait, si on prend l'indicateur PIB, donc le système économique qui vise à faire croître cet indicateur qui est l'alpha et l'oméga du système économique. On veut faire du PIB. Tous les pays sont là-dessus. C'est peut-être l'indicateur maître dans le monde actuellement. Ce qui fait qu'on compare les pays entre eux, ce qui fait qu'on va être élu ou pas, on promet de la croissance. Comment ça fonctionne, la croissance du PIB? Alors, il faut bien se rendre compte que il faut faire rentrer un certain nombre de choses. Pour faire croître du PIB, il faut des ressources énergétiques, il faut des ressources minières, tout un tas d'intrants, des ressources aussi renouvelables, donc de l'eau, du bois, des plantes, etc. Et puis, c'est mieux aussi s'il y a une croissance de la population. Enfin, tout ça multiplié fait que normalement, on arrive à faire croître du PIB. Et puis, c'est intéressant de voir que quand ce PIB croît, on a ce qu'on appelle des. Pardon. Des choses qui sortent, j'ai oublié le mot, mais des externalités. Voilà, des externalités. Qui sont des exutoires, qu'on va appeler, c'est-à-dire que donc de la pollution, en gros. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a transformé ces choses-là, qu'on a brûlé ces choses-là pour pouvoir créer de la croissance, ben, on crée des externalités sous forme de pollution. Et donc, ça crée notamment un phénomène qui s'appelle le réchauffement climatique. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les théories économiques modernes, qui nous servent de guide, cette source du PIB et ce puits du PIB, ce qu'on retire, ce qu'on fait rentrer dans le circuit, donc ce qui en sort, n'est pas pris en compte. Parce que le coût des ressources est considéré comme nul. Donc quand on coupe une forêt pour utiliser le bois, on ne compte que le coût d'extraction de la ressource. Et on considère que la nature aussi nous a fourni de la matière gratuitement. Et le coût de pollution n'est pas non plus pris en compte. Donc, in fine, en fait, parce qu'in fine, ce sont les États qui payent, ou alors on va dire que c'est la nature qui s'en charge, en fait, pour dépolluer. Un autre système, une autre structure clé, en fait, dans notre monde, c'est le système financier, puisque, pour rappel, donc, on vit à l'ère du capitalisme financier. Et donc, se pose la question de savoir quel est le lien entre l'économie réelle et financière, comment fonctionne la monnaie et pourquoi on est capable d'en créer encore et encore et encore via l'émission de dettes. Comment l'endettement des ménages, des entreprises et des pays conditionne le fonctionnement d'une société, comment ça nous engage, etc. Donc ça fait partie des autres systèmes que j'étudie. Si on ne comprend pas le fonctionnement, on ne peut pas comprendre tout un tas de choses. Il y a aussi la structure de gouvernance, notre système de gouvernance, qui pose la question de qui gouverne finalement, avec quel pouvoir, quel contre-pouvoir, comment on arbitre le long terme et le court terme, comment on arbitre l'échelon national, régional ou européen, qu'est-ce que peuvent les instances internationales pour régler la marche du monde. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, en fait, quels sont les intérêts cachés qui vont faire que y a un certain nombre de lois qui vont être votées ou pas, etc., etc. Il y a le système médiatique donc qui vient travailler justement, comme j'ai montré, à perturber notre contexte interne, en fait, en manipulant, enfin, en conditionnant en tout cas la manière dont on voit le monde et dont on agit, dont on prend nos décisions. Donc se pose la question, bah, de qui contrôle l'information, pourquoi est-ce que certaines informations circulent plus vite que d'autres, quel est l'impact de l'économie de l'attention des GAFA sur notre consommation d'infos, sur notre vision du monde et donc sur la vie en démocratie. On voit que c'est une des grandes questions de notre actualité, comment nos démocraties sont menacées aujourd'hui par ces structures-là. On a aussi des outils d'analyse. Nos outils d'analyse qui sont une structure sous-jacente et que, pareil, je regarde, puisque on se rend compte qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans la manière dont on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire on est rentré, les choses sont tellement complexes qu'on a créé des îles d'expertise qui vont être séparées par ce qu'on appelle des océans d'ignorance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à faire le lien entre les sujets. Et un des grands chantiers en fait, proposés par ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est de commencer à faire de la pluridisciplinarité. Et on se rend compte que le choix des indicateurs aussi structure complètement notre vision du réel et crée donc des tendances. On a évidemment notre technologie, ce qu'on appelle la technosphère, le technium, comme dit Kevin Kelly, que j'avais interviewé. Donc, la technologie conditionne notre rapport au monde et elle nous fait en fait autant que nous la faisons. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la technologie est absolument partout et se met entre nous et le monde? Le fait de taper sur un clavier pour écrire change la structure de notre cerveau. Le fait de swiper en haut en bas pour trouver un partenaire amoureux change notre rapport et la relation aux autres. Beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Donc là, on a toute une génération, par exemple, qui grandit avec des smartphones. Le cerveau de ces gens-là n'est pas structuré pareil que ceux qui n'ont pas grandi avec des smartphones. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Et puis sous ça, on a les croyances sous-jacentes. Qui sont importantes à avoir en tête. Donc je reviens sur une slide que j'ai montrée qui est la différence, le fait que nous vivons dans notre cerveau, dans un monde virtuel qui n'est pas le monde physique. Mais ça nous autorise en fait et sans qu'on s'en rende compte, en fait, on a créé des structures mentales dont il est extrêmement difficile de se défaire et qui fait qu'on ne voit pas venir certains phénomènes. Donc on a tout un tas d'histoires. Par exemple, la croissance économique ne dépend pas du monde physique. Voilà, moi de ce que je vois, il y a quand même un lien. Quelles que soient les limites qu'on va pouvoir rencontrer, on parviendra toujours à les dépasser grâce à de l'innovation, grâce au génie humain qui, lui, est sans limite. Il n'y a pas de limite à la croissance économique. Nous, les humains, sommes à part, au-dessus de la nature, et celle-ci nous appartient, et donc on peut en disposer comme on le souhaite. Le progrès passe forcément par de la croissance. Tout un tas d'idées comme ça qu'on nous a mis vraiment dans la tête, qui sont ancrés, qui viennent de quelque chose qui a pu sembler réel à un moment donné, mais qui n'ont pas en fait de fondement physique réel, tangible. Je cite juste une phrase de Jean-Baptiste Say, qui est donc un économiste libéral, qui illustre ce dont je parlais tout à l'heure, qui est le fait qu'on ne tient pas compte de la nature dans nos équations, et qui disait, donc les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrons pas gratuitement, ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Voilà, donc à la base un peu de nos sciences économiques, nos équations, on a ça. On a le fait que la nature ne compte pas. Et on est encore dedans. Alors, à partir de ça, donc moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces modèles-là, et c'est un peu le travail que je fais d'essayer de regarder, okay, sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qui n'est pas friable? Sur quelle connaissance en fait est vraiment difficile à remettre en question. Et en fait, quand on commence à faire ce travail, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont de l'ordre de la croyance ou qui sont chez nous de l'ordre de l'opinion qu'on n'a pas pris le temps de vérifier. Voilà, ça rejoint aussi, je vous invite à des travaux de philosophes comme Spinoza qui a énormément travaillé sur cette question de la connaissance et du savoir. J'ai pas encore du tout fait le tour, mais voilà. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut anticiper? Parce que le jeu, c'est d'essayer de se projeter. Alors, le problème avec les exponentielles, donc, c'est qu'on a beaucoup de mal à les concevoir et encore plus à anticiper ce qu'elles veulent dire, puisque bah, nous, on fonctionne en mode linéaire et que nos institutions et entreprises aussi. Donc, on n'arrive pas à imaginer le rythme de changement. Et quand en plus, on a une pensée en silo, c'est-à-dire qu'on ne pense pas comment l'évolution d'un système peut impacter un autre système. On n'imagine pas la vitesse avec laquelle notre monde peut changer. Et l'autre problème avec les exponentielles, c'est que dans un monde physique limitée dans un système en général, c'est que bah, de même que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, les courbes finissent toujours par redescendre. Et donc souvent la descente peut aussi être rapide que montée. Et ça aussi, c'est pas anticipé. Voilà, donc j'ai un schéma qui illustre bien le surprise factor pour ceux qui ont la chance de le voir. Alors il y a deux, ça m'amène à parler de deux tendances en fait quand on pense à l'avenir court terme et long terme, et les deux s'entrecroisent à mon avis. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'hypothèse de la grande décélération, qui est un des grands événements qui a le potentiel de structurer vraiment notre avenir, et donc ce qui correspond un peu en gros à la fin de la croissance économique, qui a été théorisée par pas mal de gens. Alors je vais citer Sénèque, puisqu'on a un concept qu'on appelle la falaise de Sénèque. Donc Sénèque disait « Ce serait une consolation pour notre faiblesse et nos œuvres si toutes choses devaient périr aussi lentement qu'elles adviennent. Mais il en est ainsi, la richesse est lente et le chemin de la ruine est rapide. » Je vous épargne, voilà, autrement dit, donc toute chose qui croit, pardon, finit par décroître. Et en général, plus on monte vite, plus on descend vite. Donc, je vous épargne la physique des systèmes complexes, mais ça dit en gros la même chose. On peut dépasser les limites pendant un temps court avant de perturber tellement le système que celui-ci finit par s'effondrer. Et bah, ça correspond un peu à... On retrouve ça dans le fameux rapport Meadows, dont je pense que vous devez avoir entendu parler, c'est dont on fête les 50 ans cette année. Donc Meadows que j'ai interviewé aussi, je fais un peu de pub pour le podcast, je vous invite à le découvrir. Donc en 72, bah, sort le rapport Meadows, du nom de Denis et Donella Meadows, du MIT, qui modèle, hein, qui rentre un certain nombre de paramètres, je ne vais pas vous faire le cours sur Meadows, mais qui en gros qui prédit que dans les années 20-30, une simulation prédit que la croissance économique va s'arrêter du fait... d'un manque de ressources, notamment. À ça, on peut ajouter aussi les limites liées à la capacité de pollution, etc., donc les limites planétaires, et que donc on va vers une descente, type falaise de Sénèque, qui potentiellement donc, peut être assez brutale. Donc cette simulation repose sur une idée simple, qui est celle des limites. Donc, voilà, il y a quelques semaines, on a officiellement dépassé une cinquième limite planétaire, celle correspondant à la saturation de la biosphère avec des entités non naturelles, donc comme le plastique. Et donc le dépassement des limites est lié à ce qu'on rejette. Donc c'est lié à cette structure sous-jacente qui est le fonctionnement de l'économie. Mais en fait, le travail de Meadows parle davantage des limites à la croissance liées à la limite des stocks, et ce qu'on utilise pour fabriquer le fameux progrès civilisationnel. Donc c'est intéressant de s'attarder à ça, et notamment de voir qu'il y a une vraie corrélation entre la croissance économique et... la croissance notamment de fossiles, d'énergie fossile, et en particulier la croissance de pétrole. Donc quand on regarde de manière empirique, les deux courbes se croisent. C'est Jean Covici qui parle énormément de ça et qui démontre. Alors, corrélation n'est pas causalité, mais c'est quand même troublant de voir à quel point les deux sont liés. Et donc il y a un lien fort entre le PIB et la capacité à extraire de l'énergie, à brûler l'énergie. Alors pourquoi on a cette corrélation ? Notamment avec le pétrole, parce que le pétrole fournit un tiers de l'énergie primaire mondiale et que par ailleurs, en fait, il est nécessaire au transport, à l'extraction de presque la totalité de l'énergie primaire mondiale. Donc si on n'a plus de pétrole, en gros, on ne peut plus aller extraire tout un tas de choses parce qu'on ne peut plus les transporter. Or, on voit qu'on a passé le pic pétrole. Et ça, maintenant, ça a été une grande discussion dans les années 2000-2010 où on disait qu'on s'était fourvoyé là-dessus parce qu'il y a eu le gaz de schiste et le pétrole de schiste qui, en gros, on a été raclé les fonds de cuve. Mais aujourd'hui, voilà, c'est à peu près admis par tout le monde. On ne découvre plus autant de pétrole qu'on en voudrait. C'est de plus en plus compliqué et puis le rendement est de plus en plus faible. Et donc, on va vers une descente énergétique. Et donc, il faut s'attendre à une explosion des prix du pétrole comme on le voit aujourd'hui, même s'il y a d'autres causes, évidemment. Donc ce que j'ai dit, c'est qu'on a encore beaucoup plus de réserves de gaz, de charbon, etc., mais que sans le pétrole, ça va être très difficile d'aller les chercher. Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'on est encore à 80% dépendant des énergies fossiles aujourd'hui, donc pour tout un tas de choses, donc presque 99% pour le pétrole. Et donc on voit des choses qui sont en train de se passer, on voit les prix d'énergie qui augmentent, on voit... ça sur le gaz, on voit ça sur le pétrole là, qui risque d'aller sur ses plus hauts historiques, on voit ça sur le charbon qui a explosé, et à côté de ça on a des phénomènes annexes mais qui sont complètement liés, dont il faut parler, qui donc dans les faits, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que tout ceci, en fait, notre économie, le fait qu'on continue de faire de la croissance, ne tient encore que pour une seule raison, c'est qu'on remet en fait des pièces dans la machine pour pouvoir continuer à jouer. Donc on fait de la dette. La dette mondiale aujourd'hui, c'est 370% du PIB mondial, tout compris, dette publique, dette privée. Donc chaque année depuis 1965, le montant de la dette créée a été supérieur au montant du PIB créé. Donc en fait, notre croissance actuelle et même le simple maintien du statu quo repose entièrement sur de la dette, avec d'un côté une bulle monétaire qui continue de donner du pouvoir d'achat directement ou indirectement et permet de continuer la consommation, et de l'autre côté, qui permet l'extraction d'énergie et de matériaux qui devraient être en réalité déjà devenues bien trop coûteuses pour nous. Donc dans les faits, ce qu'on fait, c'est qu'on hypothèque l'avenir via la dette pour maximiser le présent. Ça paraît, ça explique pas mal de choses. Une manière de regarder notre époque, ça serait de la caractériser comme une espèce de pulsation, comme ça, un gros carbon pulse, une pulsation liée aux énergies fossiles avec une croissance extrêmement rapide si on se met sur une échelle de 10 000 ans. On a au début, enfin 1800, boum, hop, 1850, extrêmement rapide, explosion de la population, explosion de la croissance, explosion du progrès technique, etc. Parce qu'on met énormément d'énergie dans le système et se pose la question de savoir bah, qu'est-ce qui se passe quand ces énergies fossiles ne rentrent plus dans le système, sachant qu'on en est encore à 80% dépendant. Probablement une descente tout aussi rapide. À moins que, bah, on soit effectivement suffisamment géniaux pour arriver à se passer du pétrole. Donc ça va être le défi des prochaines années. C'est ce qu'on va vivre. Ça va être au cœur d'un certain nombre de choses. By the way, il y a aussi des enjeux géopolitiques dans les crises actuelles. Des enjeux énergétiques, pardon. Je repasse rapidement, puisqu'on a aussi une augmentation du prix des métaux qui sont en train d'exploser. On a tout un tas de métaux rares. Ça, c'est, je montre une liste des 30 matières premières critiques définies par l'Union européenne, parce que stratégique et présentant donc un risque de pénurie. Le lithium pour les batteries, l'indium pour nos écrans tactiles, etc. Travaux de Philippe Biwix, notamment, de Guillaume Pitron sur ces sujets-là. Et puis, il y a tout ce qui est métaux rares et terres rares, qui sont indispensables à cette fameuse transition énergétique. Il faut 30 grammes de cobalt pour faire un ordinateur, 17 kilos de terres rares pour faire une éolienne, etc. etc. Enfin, voilà. Donc ça devient un enjeu. Donc on voit que autour de l'énergie, on commence déjà à avoir des crises avec l'année dernière, la Chine qui a connu une grave crise énergétique qui a mis certaines villes en blackout parce que en fait, elle n'arrivait pas à augmenter sa production de charbon et que l'Australie ne leur exportait plus de charbon. Voilà, donc concrètement, il y a eu des arrêts de pans entiers de l'économie chinoise. Et puis, on a un autre sujet sur l'eau, pareil, un épisode hyper intéressant, sur le fait que la crise énergétique, elle arrive, mais on a une crise sur l'eau qui peut être encore plus urgente et qui peut nous tomber dessus beaucoup plus vite, avec une énorme perturbation du cycle de l'eau du fait du changement climatique et aussi le fait qu'on pompe toutes les nappes phréatiques avec des tensions extrêmes, notamment en Californie, mais pas que, au sud de l'Espagne aussi. Et donc il peut y avoir des scénarios un peu catastrophes comme ça, avec tout d'un coup bah, l'eau qui ne coule plus parce que ça n'a pas été anticipé. Donc c'est un sujet extrêmement critique et on voit que autour des grands fleuves, au fleuve aussi, il y a des enjeux géopolitiques extrêmement forts entre la Chine, l'Inde, le Vietnam, autour des glaciers himalayens, etc. Je montre aussi une image qui nous révèle à quel point en fait on a peu d'eau disponible sur Terre par rapport à la quantité, par rapport à la taille de la Terre. Alors, un petit point sur le climat. Je pense que tout le monde est bien au fait maintenant, on a beaucoup parlé. Climate is everything, ça a fait la une du Time. Le dernier rapport du GIEC est sorti, il est dramatique quand on prend le temps de regarder. Je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu un peu les extraits. On sait à peu près où on en est, on sait ce qui se passe, on sait que le climat change parce qu'on a beaucoup émis, on sait qu'on a une consommation de CO2 dans l'atmosphère qui est énorme, qui est l'équivalent de celle qu'on avait il y a 3-4 millions d'années, je crois, et qui était un moment où, en gros, on voyait des crocodiles dans la Tamise, et ça, c'est la population qu'on avait au Groenland. À l'époque, on avait la même quantité de CO2 dans l'atmosphère, donc en gros, c'était à peu près une zone tropicale. Mais quand même, on sait qu'on a aussi bien compris le sujet, que Make the Planet Great Again, que c'est dans tous les risk reports, ça c'est le risk report du World Economic Forum, qui montre qu'il y a beaucoup de vert, que maintenant tous les principaux risques sont liés à l'écologie et notamment au climat. Il y a toute une économie qui se crée autour de ça pour essayer de trouver des solutions. Donc on a bien anticipé ces risques-là, on a des risques sur l'eau, sur l'agriculture, sur la nourriture, sur la montée des eaux. Enfin, voilà. Encore une fois, quand on lit ce rapport, on se rend compte que quand on arrive à plus 1,5 degré, ça va être catastrophique, mais c'est gérable. Et au-delà, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et puis on connaît les objectifs, il faut réduire la voilure extrêmement rapidement. Donc diminuer, aujourd'hui, ça serait diminuer nos émissions de 7 à 8% chaque année. Donc l'équivalent, comme le dit Jean-Covici, d'un Covid chaque année, mais un nouveau qui arrive chaque année. Donc moins 7, 20, moins 8% dans nos émissions, donc on n'y est pas du tout. Puisqu'on voit que post-Covid, ben, on a eu moins 2% en 2021 à cause du Covid, et hop, on repart à la hausse au niveau des émissions, donc on est en train de rattraper, parce qu'on veut rattraper notre croissance économique. On voit aussi que malgré toutes les COP et tous les accords depuis 50 ans, même 60 ans, on continue sur la même tendance et que le CO2 ne fait que augmenter de manière linéaire. Donc tout ça ressemble quand même pas mal à du vent. Et que donc on est dans une casserole comme des grenouilles, avec une eau qui bout tranquillement et sans nous faire sauter de la casserole. Donc il y a tout un tas de raisons qui fait que ça bouge pas, on pourra en reparler, mais. Et puis on fait des espèces de choses comme le Green Deal européen, avec qui se fait donc Pascal Canfin, hein, qui est responsable de ce Green Deal, pareil, épisode sismique avec Pascal Canfin, qui nous dit que il n'est pas au courant que la croissance est inscrite dans les traités européens et que donc il ne voit pas le problème, en fait, est vraiment le sujet. Donc on a aussi des gens qui sont obligés de composer avec le fait que si on lâche le mot décroissance dans une réunion, les gens se lèvent et s'en vont. Donc on a tout un tas de structures, pareil, je parlais des structures de gouvernance, de prise de décision, qui nous emportent et qui font que c'est extrêmement difficile d'aller au fond des sujets. Et puis on a cette croyance, there is no alternative, qui nous dit que de toute façon, on est obligé de continuer à croître parce qu'il n'y a pas d'alternative à la croissance, parce que la croissance, c'est du progrès. Et que par ailleurs, l'innovation nous permettra toujours de trouver des solutions. Et donc on continue. Donc on fait nos plans sur la base d'une ligne exponentielle qui ne fait que croître, alors qu'on tape les limites planétaires. Alors, c'est la dernière partie. L'autre tendance de fond, c'est ce qu'on appelle la grande accélération, qui continue. Tant que ça ne décélère pas, on continue d'accélérer. Donc c'est une autre dynamique qui structure notre époque. Et qui, quand on écoute des personnes brillantes comme Elon Musk, comme enfin, tout un tas de personnes moi, que je trouve aussi exceptionnelles, et les podcasts américains que j'écoute beaucoup, ce sont ces hypothèses qui dominent largement les conversations. L'hypothèse d'une conquête de Mars, l'hypothèse de puces dans le cerveau, du transhumanisme, de croissance, de transition énergétique sans problème, etc. De fait, ça structure encore notre époque. Avec des technologies donc qui sont en croissance exponentielle de manière fascinante. Moi, je trouve ça fascinant, tous ces trucs-là. Donc, je montre deux photos de microprocesseurs à 30 ans d'écart. Donc, on a 57 milliards de transistors sur le M1 d'Apple en 2021 contre 25 000 en 1985. On a une croissance des investissements dans l'IA et des revenus de l'IA. Donc, l'IA est un sujet, l'intelligence artificielle, avec des sujets, enfin, c'est un sujet passionnant pour voir comment, à quel moment, en fait, l'intelligence artificielle peut devenir véritablement sentiente, intelligente, et tous les problèmes que ça pose. Pareil, menace existentielle aussi, prise très au sérieux par tout un tas de gens. Qu'est-ce qui se passe quand on perd la main sur les algorithmes? Ensuite, on a tout ce qui est robotisation, qui a plein d'implications sur la société. Et puis, on a les NBIC. Je passe vite, hein, parce que vous connaissez, je pense, mais nanotechnologie, biotechnologie. Le I, c'est Infinite Computer Power, donc tout ce qui est ordinateur quantique, etc. Et puis, cognitive science, donc les puces dans le cerveau, compréhension du cerveau humain, qui peut avoir des pareil, c'est fascinant de regarder ce qu'on peut projeter à partir de ça. Des nouvelles manières de faire la recherche et d'innover, donc qui sont portées par le biomimétisme. Donc pareil, c'est ce qui fait dire à certains qu'on n'a pas encore. Il suffit d'innover différemment pour arriver à résoudre tous les problèmes du siècle. Et puis on a des phénomènes un peu plus à la mode comme le Web 3, ce nouveau web en fait beaucoup plus décentralisé, porté par les cryptos, les NFT, qui fait que Facebook s'est rebrandé en Meta. Donc cette espèce de fantasme d'univers virtuel, voilà, et avec plein de choses très très concrètes aussi et fascinantes qui se mettent en œuvre et qui vont avoir des conséquences sur nos vies dans les 10 prochaines années. Et puis on voit que finalement, ces métaverses existent déjà, parce qu'on a l'industrie des jeux vidéo qui est absolument gigantesque, avec des investissements aussi de Microsoft qui... C'est toujours intéressant aussi de regarder où les grosses boîtes investissent et ce qui se passe dans le secteur financier, parce que ça donne une bonne indication de comment, en fait, ce sont ceux qui ont l'argent qui créent l'avenir. Hein. Faut pas aussi... Moi, je suis assez lucide là-dessus. Enfin, je pense être lucide là-dessus. Donc, quand on voit la masse d'investissements qui sont là-dessus, il y a des choses qui sont créées, il y a des choses qui vont arriver jusqu'à nous. Donc, c'est porté, tout ça. Tracking, capacité de tracking des reconnaissances faciales, tracking de tout le monde avec les objets connectés, etc. Pareil, des conséquences sur tout un tas de choses, sur la démocratie. Et puis, le spatial qui continue de fasciner, qui peut ouvrir de nouvelles portes de connaissances, etc. Voilà, donc on est dans cette accélération exponentielle de la technologie qui, à mon avis, il faut comprendre. Et c'est intéressant de regarder les valorisations aussi, les plus grosses valorisations mondiales, et de se rendre compte que ce ne sont que des boîtes tech, enfin en tout cas qui maîtrisent la tech, ou des boîtes d'énergie, puisque dans ce classement mondial là que je montre, il faut aussi ajouter Saudi Aramco qui est numéro 2 et aussi Tencent en 7, puisque là c'est plutôt les valeurs américaines. Donc on a celui qui maîtrise la technologie, maîtrise la captation, maîtrise l'information, maîtrise la captation des exponentielles, de la valeur des exponentielles, et donc accumule des richesses, et donc accumule le pouvoir. Et donc on a une distorsion énorme du pouvoir aux mains de quelques-uns qui fait que notre monde va dans un sens ou dans l'autre. Dernière partie un peu sur la géopolitique. Alors c'est une presse qui date d'avant la crise ukrainienne, mais j'avais déjà quelques slides là-dessus. Avec des nouveaux rapports de force entre le UK et les US, avec l'affaire AUKUS, on a vu avec l'affaire AUKUS australienne, des tensions qui augmentent avec la Turquie, des risques importants de chaos du Maghreb, des guerres, enfin un peu partout. Beaucoup, beaucoup de tensions, des risques énergétiques et en ressources majeures. La Chine qui se dit, qui a dans ses plans d'envahir Taïwan et qui s'est de plus en plus isolée du monde dans cette période Covid. Donc pour rappel, je vivais à Hong Kong, j'ai vécu à Hong Kong pendant 6 ans et j'en suis revenu qu'il y a 6 mois, là, donc j'ai vécu le Covid depuis là-bas, donc pour aussi en reparler. Et puis cette slide que j'avais mise de la préparation de la guerre, les troupes russes qui s'amassaient à côté de l'Ukraine, donc on voit qu'on est en plein dedans, avec pareil une dimension énergétique majeure, puisque récemment... découvert des ressources gazières extrêmement importantes en mer Noire autour de la Crimée, ce qui explique aussi en partie l'annexion de la Crimée. Enfin voilà, donc des enjeux stratégiques autres que ce qu'il y a dans la tête de Poutine et de son fantasme de grande Russie. Tout ça, c'est en train de conditionner. Juste un mot sur la géopolitique, on va en parler. Moi, ce qui m'a étonné récemment, c'est que j'étais beaucoup sur un sujet climatique et énergétique. Et on voit à quel point, en fait, un événement géopolitique peut considérablement rebattre les cartes, puisque en fait, quand le court terme se rappelle à nous, bah voilà, on a tendance à oublier les enjeux long terme, ce qui pose aussi des grandes difficultés. Et c'est normal, ça correspond aussi à la pyramide de besoins. On a d'abord besoin d'être en sécurité. Donc voilà. Et puis il y a des enjeux de société avec des tendances, des structures de fond comme l'évolution de la population, le vieillissement de la population d'ailleurs, comme les inégalités. Sont faramineuses et qui structurent effectivement la technologie, la gouvernance, tout un tas de choses, les jeux de pouvoir, et puis les tensions sociales un peu partout qui sont directement et indirectement liées à ça, illustrées par chez nous, par exemple, par les gilets jaunes, etc. Voilà, donc on a toutes ces ondes, toutes ces dynamiques en fait qui se croisent. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé le podcast sismique. On est dans une époque qui fait bouger toutes ces lignes. Et on a des ondes de choc qui nous arrivent dessus. Ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter un peu d'essayer d'être le plus lucide possible, à la fois sur toute cette complexité et puis sur voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça, in fine. Si on est là, c'est qu'on a besoin d'essayer d'y voir un peu plus clair pour pouvoir faire des choix personnels, puisqu'en fait, ça n'est que ça. En essayant d'être le plus conscient possible, sachant que c'est quand même compliqué de voir exactement ce qui nous arrive dessus. Dernière slide. Voilà, tous les chemins nous amènent ici. Et tout est ouvert pour le futur. Tac, je vais arrêter le partage. J'ai fini ma petite dissertation.